Il raconte qu'il est né à Beyrouth, dans une rue de Paris, comment être d'ici et d'ailleurs.
De vive voix.
Chantal Leroux.
Bonjour Sabil Goussoub.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, chroniqueur littéraire, photographe franco-libanais et vous avez reçu le 24 novembre dernier le Goncourt des lycéens pour Beyrouth sur Seine. C'est un roman autobiographique tout à la fois tendre, drôle, mordant et sans langue de bois sur l'histoire compliquée de votre famille, imbriquée dans l'histoire tout aussi compliquée, tumultueuse et douloureuse du Liban. D'abord, savez-vous pourquoi les lycéens ont été séduits par votre livre ?
J'ai commencé à comprendre pourquoi. J'ai pu les rencontrer aux rencontres nationales après avoir obtenu le prix La Reine il y a quelques jours. Et c'est plusieurs sujets. Je crois que c'est le sujet de la famille. Déjà qu'un enfant ait interrogé ses parents sur leur histoire, ça les a beaucoup touchés. Le sujet de la guerre et de l'exil. Je crois que les histoires en Syrie, les histoires en Ukraine et Russie, ça leur parle beaucoup. Et cette histoire, en fait, ils ont pu reconnaître des histoires qu'ils entendent de collègues autour d'eux, de camarades de classe. Et c'est vraiment ces trois sujets, la famille, l'exil et la guerre.
Alors comment vous est venue l'idée à vous de faire raconter à vos parents, en les enregistrant, toute une partie de leur vie que vous ignoriez ?
Alors l'idée est née il y a 6 ans à peu près quand j'étais au Liban. Je travaillais sur la photo sur le village de ma mère et je prenais beaucoup de photos du village et j'ai eu envie d'intégrer des photos de famille à mon projet. Et en fait, je me suis plongé dans mes archives de famille et j'ai découvert en fait à travers ces images-là tout le Paris de mes parents dans les années 80, 90, mais aussi des images de guerre, beaucoup de la guerre du Liban, en particulier en 82, quand les Israéliens sont rentrés à Beyrouth. Et dès ce moment-là, j'ai su que j'allais en faire quelque chose. Et en fait, les années sont passées et il n'y a pas eu d'expo photo, j'ai voulu en faire un film, mais ça ne se faisait pas. Et en fait, l'écrit est venu comme une évidence et des éléments très extérieurs à l'écriture du livre sont déroulés. Je pense à la révolution qu'il y a eu au Liban en 2019, à la crise économique, à l'explosion du port de Beyrouth, mais aussi au Covid. J'ai eu un peu peur de voir mes parents mourir et je me suis dit, bon, bah, y a un moment, il va falloir que tu y ailles, Sabine. Et voilà, il m'a fallu une dizaine de fois avant d'oser poser la première question à mon père. Et puis quand j'ai réussi à la poser, c'était naturel que je devais écrire ce livre à ce moment-là.
Mais à partir de ce matériau, donc les enregistrements de vos conversations avec vos parents, comment avez-vous construit votre roman ? Comment on fait pour écrire un récit fluide, centré sur la famille et les personnages incroyables qui composent votre famille, avec en filigrane une histoire politique du pays tellement complexe et tellement sombre ?
Tout le travail était là, c'était de trouver l'équilibre entre l'intime et la grande histoire. Je ne pouvais pas faire l'impasse. Je me suis demandé, moi, est-ce que je peux raconter l'histoire de mes parents sans parler de la guerre, sans parler des politiciens libanais ? Et en fait, très rapidement, je réalisais que non, parce que même dans ce qu'ils me racontaient, en fait, c'était toujours baigné de politique, d'événements qui s'étaient déroulés, de massacres, de l'élection d'un président, puis de sa mort. Et donc, en fait, il a fallu trouver le juste équilibre entre tenir le fil de ces personnages-là, de mes parents, de leurs frères, de leurs sœurs qui ont vécu au Liban, et en même temps mettre quelques éléments politiques pour qu'on comprenne pourquoi ils sont jamais rentrés au Liban, pourquoi ça allait mal, pourquoi ça va mal aujourd'hui. Donc c'était tout un travail de montage, en fait, presque comme dans un film, où il fallait que les bonnes scènes s'imbriquent les unes avec les autres, qu'il y avait toute une question de sensation aussi. Il y a un moment, j'ai fait confiance à mes sentiments en me disant, voilà, il faut que ce chapitre aille succéder à cette histoire-là, même si ce n'est pas la même époque, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui convoquent les mêmes thèmes à ces moments-là et qui peuvent se répondre des années 75 aux années 2000.
Et puis, il y a des chapitres plus longs, d'autres plus courts.
Oui, ça, c'est vraiment une question de rythme, peut-être quelque chose de musical. Mais ça, je me suis vraiment laissé aller à l'écriture, à comment les choses s'arrêtaient. Évidemment, parfois, j'ai rebougé des chapitres. Il y en a qui ont été modifiés de nombreuses fois. Mais voilà, c'était vraiment presque quelque chose de musical. Pas forcément voulu, mais je pense que j'ai laissé mon intuition un peu décider parfois.
Alors, je reviens à la phrase extraite de votre livre que je citais en préambule de l'émission. Je suis née à Beyrouth, dans une rue de Paris. En fait, vos parents ont beau habiter en France depuis 1975. Ils étaient venus faire leurs études quand la guerre civile a éclaté au Liban, donc ils sont restés. Ils ont continué à vivre à l'heure libanaise. Ils ont recréé Beyrouth chez eux.
Ils n'ont jamais vraiment quitté le Liban. Oui. 45 ans plus tard, si vous rentrez chez mes parents, vous avez l'impression d'arriver au Liban. Et c'est ma fiancée qui le raconte le mieux. Elle est née au Liban, elle a grandi au Liban, elle a des parents qui vivent encore au Liban. Et donc quand elle est rentrée la première fois dans l'appartement de mes parents à Paris, elle m'a dit « je me sens encore plus au Liban que quand j'y suis ». Et oui, ils ont recréé, ils ont gardé les éléments de leur village d'où ils sont, où ils ont grandi, les fleurs, les plantes, les odeurs, les couleurs, la télé toujours accrochée sur les télés libanaises. On trouve des journaux libanais, des livres arabes. C'est des vrais exilés dans ce sens-là.
Vous écrivez « Le Liban, c'est mes parents. Je ne sais pas ce que représentera ce pays après la mort de mes parents. Peut-être qu'il disparaîtra avec eux. » Vous, vous n'êtes pas né au Liban. Vous n'y avez pas grandi comme vos parents. Et pourtant, vous vous sentez déraciné.
Oui, c'est très étrange. Il m'a fallu du temps pour accepter cette idée que je ne saurais pas pourquoi je me sens déraciné, pourquoi je ne me sens pas à ma place ici et vraiment, vraiment bien quand j'arrive là-bas. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai écrit ce livre en me disant que j'allais trouver des réponses. Évidemment, j'en ai trouvé aucune et j'en trouverai jamais. Je crois que c'est, voilà, je l'écris dans le livre aussi, que certains le sentent, ce déracinement, d'autres non. Et c'est comme ça, il faut vivre avec.
Et c'est drôle parce que vous racontez que vos références en matière de culture, de musique, viennent davantage du monde arabe que du monde occidental. Et vous vous en rendez compte quand on vous interviewe.
Oui, parce qu'on me demande quelles sont mes références et parfois donc on fait des rencontres à plusieurs auteurs et parfois de la même génération que moi. Et je suis toujours un des seuls qui sort des noms que personne ne connaît dans la salle, en fait. Et je trouve ça bien parce que je m'en revendique autant que maintenant je me revendique aussi d'auteur français ou d'origine française. Et voilà, j'aime beaucoup de mettre à égalité ces noms-là parce que souvent, quand même, pendant très longtemps, on les mettait toujours un peu en dessous. Il y a la culture occidentale, puis un peu les autres. En disant ces noms-là très naturellement, parce que je mens pas sur ça, ça a vraiment été mes influences. Voilà, je réaccorde un peu d'équilibre.
Et vos influences, donc, Fayrouz, Ziad Rahbani?
Alors, Ziad Rahbani, beaucoup, qui est le fils de Fayrouz. Fayrouz, de par la tradition libanaise, c'est comme si on disait Jacques Brel en France. Après, c'est plus des jeunes artistes, des jeunes réalisateurs, ou disons des artistes et des... Pour parler des Libanais qui ont apparu après la guerre du Liban, après 91, des gens qui ont travaillé sur la mémoire de la guerre, des gens qui ont travaillé sur des histoires d'exil. Je pense à Khalil et Johanna, je pense à Nadine Labaké aussi, à Ziad Doueiri. Il y en a beaucoup, il y a des groupes musicaux aussi. Voilà, toute la génération après 90 aussi m'a beaucoup influencé dans ce que j'écris aujourd'hui.
Alors amusant, vous vous sentez des affinités avec Martin Scorsese, pour quelle raison?
Ah oui, ça c'est sur son premier film. Alors en écrivant ce livre, j'ai découvert son premier film.
Un documentaire
qui s'appelle Italian American, qu'on peut trouver d'ailleurs sur YouTube, et qui est son film de fin d'université, où en fait il prend sa caméra et il va dans l'appartement de ses parents à New York et il les interroge. Et en fait, il les interroge un peu sur leur passé, leur lien à l'Italie et à la culture italienne. Et quand j'ai vu ce film-là, c'était génial, parce que donc, je vivais ça avec mes parents tous les jours, parce que donc, j'allais un jour sur deux, un jour sur trois chez eux, et je les interrogeais dans leur appartement, et donc je me faisais traîner de la cuisine à la bibliothèque de mon père, au canapé. Et en fait, il a vécu la même chose. Il a fait exactement ce même mouvement d'aller interroger ses parents pour comprendre pourquoi il les avait interrogés. Et j'ai réalisé en regardant ce film-là qu'en fait, il n'a jamais cessé de recréer les personnages de ses parents dans ses films. La manière de parler, la manière de manger, de faire la cuisine, d'être en lien avec les États-Unis, mais en même temps être très accroché à l'Italie. Et je crois que voilà, mes parents qui sont les personnages de ce livre-là, Beyrouth sur scène, moi je les ai choisis parce que je pense que Scorsese a dû faire pareil avec ses parents, c'est qu'on a estimé que c'était des personnages intéressants avant d'être nos parents. Et moi je trouve que c'est des personnages merveilleux. Mon père insulte, déteste tout le monde, il est tout le temps en colère. J'adore ça dans la vie et dans un roman. Dans la vie c'est fatigant, mais dans un roman c'est génial. Et ma mère est cette mère méditerranéenne qu'on adore mettre en scène en général dans un livre ou dans un film.
Et vous décrivez cet ailleurs que vous avez en commun avec Scorsese, cet ailleurs méditerranéen avec ce combo de machisme et de tradition, de mélancolie et d'humour noir, de démesure et d'outrance, de cris et de larmes.
توت ع بيروت يا بي خدني مشوار شلحني حدك بالسيرفيس وربطني ببكلي وزنار قال لي استاذ الانشاء قبل ساعه من الفكي انه جدي المير بشير كان بيستاهل دكي استاذ التاريخ فنجر عينه وقال هذا اللي ما شاف المتحف جاهل وصرصار.
Ce qu'on entend, c'est une berceuse de Marcel Khalife que votre père vous chantait quand vous étiez petit. Je vous laisse prononcer le titre.
Tout à Beyrouth.
Vous avez été élevé dans quelle langue? Le français, l'arabe ou les deux?
Les deux, mais plus l'arabe libanais d'ailleurs.
Vous racontez un échange entre votre père et l'un de ses amis journalistes qui refuse de quitter le Liban avec ses enfants parce qu'il a peur que ces derniers oublient l'arabe. Et votre père lui répond « Qu'ils oublient l'arabe, mieux vaut ça que mourir. » Et de toute façon, qui parlera encore arabe? Qui se souviendra de cette langue? C'est déjà une langue morte. Pourquoi ces mots que votre père vous avait déjà dit vous ont déchiré?
Il me donne même encore des frissons, mais parce que c'est un homme très en colère, c'est un homme qui est prof de langue arabe, qui maîtrise l'arabe mieux que personne, et qui, la vie n'a fait que le décevoir tout le temps. Il voulait être metteur en scène au Liban, il voulait justement user de cette langue, raconter des histoires. Je pense qu'il l'aime plus que tout au monde, et voilà, elle disparaît pas, mais disons que sa langue à lui, celle qui est porteur de cette culture-là, une culture en plus très engagée, très de gauche, très humaine, on l'entend moins aujourd'hui peut-être en langue arabe. Alors elle a existé avec différentes révolutions là qui ont eu lieu, mais bon, elle a pas encore, elle donne malheureusement pas ses fruits encore, mais c'est déchirant de voir un homme qui aime autant une langue. Elle lui a été arrachée, cette langue. Il a dû se reconstruire en français. Il n'a pas pu être le metteur en scène et le poète qu'il voulait. Non, c'est tragique. Enfin, quand je l'entends dire ces phrases-là encore aujourd'hui, il y a quelque chose d'immensément triste.
Vous en parliez tout à l'heure, votre père a toujours adoré provoquer, même et surtout quand le contexte est tendu. On est à Paris en 1986. Le 17 septembre, vos parents échappent de justesse à l'attentat de la rue de Rennes devant le magasin Tati. 6 morts, 58 blessés. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, attribue à tort l'attentat aux fractions armées révolutionnaires libanaises, une organisation communiste à laquelle appartient Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré en France. Alors que le véritable l'auteur de l'attentat, Fouad Ali Saleh, qui agissait pour le compte du Hezbollah, sera arrêté quelques mois plus tard. Est-ce que vous pouvez nous lire ce passage de votre livre ?
La France se divise. Ma mère a de plus en plus honte d'être arabe. La guerre du Liban offrait déjà une image déplorable des Libanais, mais ajouter les attentats sur le territoire français, c'en est trop. Personne en France ne connaît la différence entre un arabe et un autre. On ne fait aucune différence entre un Jordanien, un Irakien et un Libanais. Ils sont mis dans le même panier. Même les Iraniens, pour une majorité de Français, sont des Arabes. Une amie syrienne qui a l'âge de ma mère m'a raconté qu'à cette époque, alors que le chauffeur d'un taxi lui demandait le prénom de son fils assis à côté d'elle, elle avait répondu Nicolas au lieu de sa amie. Par réflexe, m'avait-elle dit. Elle ne voulait pas entendre de remarques déplacées ou apercevoir un rictus ou une grimace sur le visage de l'homme. Mon père, lui, n'a jamais autant hurlé qu'il était arabe. Au café, s'il entendait ses voisins de table employer les mots bougnoul, raton, boukak, il se mettait à parler très fort en arabe. Alors que durant cette période, ses amis nomment de plus en plus leurs enfants avec des prénoms français, il dit à ma mère « Si un jour nous avons un deuxième enfant, on ne lui donnera pas, comme Ayala, un deuxième prénom français pour faire plaisir à l'administration française. Notre enfant aura seulement un prénom libanais, et le plus beau des prénoms. Pour la fille, je réfléchis encore, mais j'aimerais Rawa. Mais si c'est un garçon, ce que je ne souhaite pas, on l'appellera Sabil, la source, le chemin. »
Et vous êtes né 2 ans plus tard, Sabil Goussoub. Pourquoi votre père ne souhaitait pas avoir de garçon?
C'est une question qu'il faudrait lui demander, ça.
Vous ne lui avez pas posé la question?
Je crois qu'il ne supporte pas les garçons, je crois qu'il ne supporte toujours pas.
Et aujourd'hui, il ne sort jamais sans avoir dans ses immenses poches de manteau ses recueils de poésie en arabe et l'un de vos romans. Il vous le dit ou il ne vous le dit pas qu'il est fier de vous?
Ah si, il me l'a dit il y a une quinzaine de jours après un entretien, parce qu'il m'a entendu parler du Liban et il m'a dit, cette phrase très belle, il m'a dit « Il y a des gens qui font ça pour dire n'importe quoi, mais toi tu sais ce que tu dis ».
Très joli. Et qu'avez-vous découvert de plus surprenant en l'écoutant pendant ces enregistrements?
Ce qui m'a le plus surpris, c'est comment la guerre du Liban les a rattrapés à Paris. Moi, j'ai vraiment découvert toute cette série d'attentats qui sont déroulés en France, que je connaissais un peu, mais pas à ce point-là. Et j'ai trouvé ça vraiment, c'est tragique que des gens qui aient fui la guerre soient rattrapés par des attentats dans le pays où ils ont voulu justement se protéger. C'est toute une histoire de la France que je connaissais très peu, d'ailleurs qu'on raconte très peu. Je crois que beaucoup de gens de ma génération ne la connaissent vraiment pas. Tout à l'heure, vous parliez de Fouad Ali Saleh. Vraiment cette salle d'attentat, mais d'ailleurs pas que sur ma génération, il y a des gens qui me disent j'avais complètement oublié ou je m'en souvenais plus ou je savais pas qu'il y en avait eu autant.
Alors qu'à une époque, il était à la une des journaux pendant des semaines.
Ouais.
Il y a aussi votre mère dans ce livre, évidemment, pour qui la famille est sacrée. Votre mère qui WhatsApp tous les matins. C'est parce que WhatsApp occupe beaucoup de place dans sa vie que vous en avez fait un verbe que vous conjuguez.
Le WhatsApper, oui, maintenant je le dis d'ailleurs. Je dis qu'il y a des WhatsAppeurs et des WhatsAppeuses. Oui, oui, elle WhatsApp tous les matins. Mais tout comme elle écrivait des lettres pendant la guerre, des correspondances à ses frères et sa famille et ses parents, elle WhatsApp maintenant avec tout le monde. Voilà, elle a pu recréer ces fameux immeubles qu'elle voulait construire au Liban, à Beyrouth, pour mettre toute sa famille dedans. Ben, maintenant, il est sur WhatsApp, l'immeuble. Et donc, il y a tout le monde réuni dans un groupe.
Alors, votre mère vous révèle aussi qu'elle a été assistante dans une galerie d'art et vous le découvrez seulement à 32 ans. Pourquoi ça vous semble fou ? Parce qu'elle ne vous l'a jamais dit avant ou parce qu'elle a côtoyé un milieu imbuvable ? Et c'est un doux euphémisme.
Oui, alors sur le milieu imbuvable, je ne dirais rien. Mais,
lire le livre.
Voilà. Mais sur le... Non, ça m'a surpris parce que donc, moi, je faisais beaucoup de photos et je travaillais dans le cinéma. Et c'est vrai que je me demande encore d'ailleurs pourquoi elle ne me l'avait pas tellement raconté que voilà, elle avait travaillé dans une galerie qui défendait les artistes du monde arabe à Paris dans les années 80-90, des gens dont je me sens d'ailleurs très proche, des artistes dont je me sens très proche. Je trouve ça curieux qu'elle n'ait pas eu l'envie de me raconter, de me partager ce moment de sa vie qui finalement est assez lié à mon histoire actuelle et à ce que je fais.
Donc finalement, il y a une filiation...
Oui, une filiation qui
étrange.
N'a pas été...
Ouais, un héritage... Qui n'est pas passé par la parole,
non,
peut-être.
Mais par peut-être des tableaux qui étaient à la maison. Finalement, tous ces petits tableaux qu'elle achetait de peintres à l'époque qui étaient sans le sou et qu'elle accrochait à la maison, ben, j'ai grandi au milieu de ces tableaux-là. Et peut-être, voilà, sans rien dire, par le silence, elle a réussi à me transmettre cette affinité-là, cette relation-là.
Samuel Goussoub, on va écouter un titre des pionniers de la scène électro-libanaise, Soap Skills Galbi. Galbi, mon cœur en arabe, Soap Skills dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours avec Sabil Goussoub, prix Goncourt des lycéens pour son livre Beyrouth sur scène. Pourquoi avoir choisi ce titre, Galbi ?
Parce que Soap Skills, c'est vraiment la bande originale de toute ma génération de Libanais, de la diaspora et de Beyrouth et du pays. C'est vraiment des gens qui ont refaçonné un imaginaire de la ville. C'est quelque chose qu'on écoutait tous dans nos voitures. Voilà, et puis mon cœur, parce que les premiers mots de cette chanson, c'est Yajal Hagalbi, qui veut dire aux blessures de mon cœur. Et je crois que tous les Libanais aujourd'hui se sentent blessés au plus profond de leur cœur.
Dans Beyrouth sur Seine, vous expliquez que les histoires de famille ont détruit la seule utopie à laquelle votre mère croyait, la famille, la seule safe place pour les exilés comme nous. Je reprends les mots de votre mère. C'est le problème de votre famille et plus largement du Liban. La politique, les partis, les clans séparés, les frères, les oncles, les cousins au fil des guerres. Et ça, vous n'avez pas cherché du tout à l'occulter.
Non, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de pourquoi le pays va mal, c'est pourquoi cette révolution qui a eu lieu en 2019 aussi n'arrive pas à vraiment éclore et à changer les choses, c'est qu'on a encore ces divisions-là, elles existent encore dans nos familles, sur les générations d'après, et c'est un mal qui ronge le pays, la politique vraiment, les partis communautaires, nos communautés sur lesquelles souvent on revient, qu'on essaye de protéger, on ne sait pas vraiment pourquoi, non, il y a vraiment un mal qui ronge ce pays et qui traverse les frontières d'ailleurs. Vous irez chez des Libanais de la diaspora, après quelques mots échangés, vous verrez qu'on est souvent repris, on revient se fermer sur notre petite communauté ou notre petit village. Non, il y a quelque chose de tragique dedans.
Alors, rester ou partir là-bas, c'est l'éternel dilemme. Vous avez vécu au Liban plusieurs années, mais vous êtes revenu. Pourquoi ?
Parce que j'arrivais plus à vivre de mon travail. C'était impossible. Voilà, je travaillais dans la photographie, le cinéma, un peu dans l'écriture à l'époque. Et voilà, je ne gagnais plus du tout ma vie. Et j'avais bien compris que c'était impossible. J'avais très peur aussi. Voilà, j'avais, je pense, 27 ans ou 26 ans. Je ne sais plus très bien. Et c'est un moment où on se dit, voilà, maintenant, il faut construire un petit peu. Et j'avais très peur de construire là-bas parce que j'ai toujours eu cette peur. Mais qui est une vraie peur, c'est qu'une guerre entre Israël et le Liban éclate. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont plus âgés que moi qui, en 2006, quand il y a eu la guerre entre Israël et le Liban, la guerre des 33 jours, avaient justement été revenus au Liban, avaient construit. Les Syriens venaient de partir du pays. Donc il y a une sorte de moment d'espoir dans le pays. Et donc, ils avaient réinvesti de l'argent, etc., dans des projets. Et en fait, tout est tombé du jour au lendemain quand cette guerre a éclaté. Et j'ai eu peur que ça m'arrive. Donc, en fait, je suis parti pour me protéger, en fait, tout simplement.
Et aujourd'hui, ce dilemme, rester ici ou partir là-bas, il est encore dans votre tête ou plus du tout ?
Il est toujours là, il nous travaille toujours. Et encore plus quand on passe quelques jours au Liban ou quelques semaines au Liban. Maintenant, je crois que sur les gens de ma génération, malheureusement, c'est un peu différent que celle de mes parents. Eux, ils ont vraiment l'espoir du retour. Ils sont partis toujours avec l'espoir un jour de rentrer. Moi, je vous avoue que maintenant, j'y crois plus trop. Je pense qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont en train de quitter le Liban, qui se disent, voilà, bon, bah, c'est notre pays, peut-être on ira de temps en temps en vacances, mais on va construire notre vie ailleurs. Et moi, c'est vrai qu'au jour le jour, c'est ce que je pense, quoi. C'est que je vais plus jamais retourner vivre au Liban. Et c'est comme ça.
La musique, on l'a compris, est très présente dans votre livre. Vous avez parlé de Fairouz, mais il y a aussi Chet Baker et son titre « Alone Together ». Pourquoi ce titre va-t-il si bien pour vous, aux Libanais de la diaspora ?
Parce qu'on est, on est chacun seul, éparpillé un peu aux quatre coins du monde. Et pourtant, je pense qu'il y a un même cœur qui bat de tous les Libanais. Je pense à l'explosion du port de Beyrouth. Voilà. N'importe quel Libanais, qu'il soit en Australie, au Canada, en France, s'est senti complètement déchiré à ce moment-là. Et ce que vit le pays aujourd'hui, la crise économique, beaucoup de Libanais taisent, n'en parlent pas, mais si vous grattez un petit peu, vous verrez que c'est... Il y a une même tristesse, une même mélancolie, un même désespoir qu'on va retrouver chez tous les Libanais, quelle que soit leur génération d'ailleurs, et qu'ils aient vécu ou non au Liban. Donc oui, je trouve que cette chanson raconte vraiment quelque chose de ce qu'on vit aujourd'hui, et cette chanson est mise en scène dans le livre pendant la guerre. Il y a un de mes oncles qui joue cette chanson-là sur la ligne de démarcation, à ce moment-là où chrétiens et musulmans étaient encore divisés, et lui était encore, voilà, il sentait encore que voilà, on était encore chacun de notre côté, mais là c'était dans le pays à cause de la guerre civile, et pourtant il y avait un même cœur qui bat pour ce pays, pour un amour du pays. C'est juste qu'on n'arrive pas à le mettre en forme, en fait. Ça fait depuis la naissance de ce pays-là qu'on n'a jamais réussi à trouver le bon équilibre pour qu'on puisse vraiment vivre ensemble sans se faire la guerre tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Sabil Goussoub, je vous propose de retrouver maintenant, comme chaque mercredi, la chronique de Lucie Bouteloup, La puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Chantal.
Vous vous penchez aujourd'hui sur une expression mythologique.
Absolument. Aujourd'hui, nous allons parler de la boîte de Pandore. Vous savez, celle qu'on a terriblement envie d'ouvrir. Alors, que contient cette fameuse boîte et qui est cette belle Pandore ? J'ai posé la question à la pétillante Marie-Dominique Poré. Mais avant, comme d'habitude, Chantal, la parole aux enfants.
Chose qu'il ne fallait pas faire.
Faut pas être trop curieux parce qu'après, ça se retombe sur nous.
C'est faire un peu n'importe quoi. Quand, par exemple, tu fais quelque chose et tes parents t'ont dit non, faut pas le faire,
Ça me fait un peu penser à l'histoire de Barbe Bleue où elle n'avait pas le droit d'ouvrir la porte, mais elle l'a quand même fait et tu peux te faire très gronder.
Ça peut vouloir dire que la curiosité, c'est pas tout le temps bien.
Ça peut aussi vouloir dire que par exemple t'as fini la fac et du coup t'entres dans le monde du travail. C'est un peu comme ouvrir une porte et là t'as un nouveau monde.
Moi j'ai l'impression que ça veut dire que tu fourres un peu ton nez dans les affaires qui te regardent pas.
Pas mal, Marie-Dominique Poré. Alors, on ouvre sur un nouveau monde. Oui, ils en savent des choses, ces petits.
Intuitivement,
mais ils ont bien compris aussi qu'il y avait cette idée d'interdiction. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression « ouvrir la boîte de Pandore »
Ouvrir une boîte où il n'y aura que des ennuis dedans.
Donc, elle est à la source des malheurs.
C'est une source de malheur que d'ouvrir cette boîte.
Ce qui veut dire aussi s'exposer par une initiative imprudente à de graves dangers.
D'accord. Oui, c'est ça.
Alors, on ouvre la boîte de Pandore. Qui est donc cette fameuse Pandore ?
Alors, Pandore, c'est la créature féminine, une des premières créatures féminines littéraires. C'est notre Ève religieuse transposée dans le domaine littéraire, Pandore, c'est Zeus qui l'a fait créer par Héphaïstos. Il l'a fait forger, elle est faite de terre et d'eau, et elle est dotée de tous les dons.
La beauté, l'intelligence,
etc. Voilà. Mais on va s'apercevoir qu'elle a un méchant défaut.
Qui est
la curiosité.
Et c'est là que tout commence.
Et c'est là que tout va commencer, parce qu'en fait, elle est très belle, Pandore, et elle va susciter les désirs du frère de Prométhée. Et Zeus, en fait, avait créé cette femme pour faire tomber sous son charme le frère de Prométhée. Et Prométhée avait dit à son frère, surtout, n'ouvre pas la boîte de Pandore. Et effectivement, Pandore, qui était là avec cette boîte, qui était comme un cadeau de mariage, la curiosité étant bien féminine, n'a pas résisté à ouvrir cette boîte. Et donc, c'est comme ça que sont arrivés sur Terre tous les malheurs du monde, parce qu'en ouvrant la boîte, sont sortis de la boîte tous les maux qu'elle contenait.
Heureusement, au milieu des malheurs, il restait juste
elle a juste refermé à la fin.
Et il y avait
l'espérance.
L'espérance qui, donc, va sauver
l'humanité. Qui nous permettra de supporter tous les malheurs du monde.
Chic, alors.
Voilà.
Alors, difficile de savoir depuis combien de temps elle est utilisée, cette expression.
Oui, je ne sais pas.
Elle n'est pas très usitée. J'ai l'impression qu'elle s'adresse bien plus aux personnes qui connaissent la mythologie.
Ah, sans doute un petit peu plus.
Alors, dans quelles circonstances on peut utiliser cette expression « ouvrir la boîte de Pandore » Donnez-moi un exemple concret pour qu'on puisse s'en rendre compte.
Quand on est en train d'aller débroussailler un dossier, on aurait mieux fait de ne pas mettre le nez. Parce que tout d'un coup, en ouvrant ce dossier, on va s'apercevoir qu'il y a ci, il y a ça et que ça va être de pis en pis. Il aurait mieux valu ne jamais l'ouvrir.
Par exemple, il y a un dégât des eaux, on ouvre le plafond et là, catastrophe, la maison s'effondre sur nos têtes. On aurait mieux fait de jamais ouvrir.
Voilà, c'est peut-être un peu ça l'idée d'ouvrir la boîte de Pandore.
Alors, comme souvent avec les expressions issues de la mythologie, cette locution a passé les frontières et on la retrouve telle qu'elle un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, on ouvre la boîte de Pandore. Merci Marie-Dominique Poré d'être venue ouvrir cette boîte de Pandore avec nous. Je vous donne rendez-vous peut-être une autre fois pour une autre expression. D'ici là, portez-vous tous très bien.
Avec plaisir.
Merci Lucie. Je ne vous dis pas à mercredi prochain, mais à lundi prochain, puisque vous serez toute la semaine à ce micro. Sabile Goussoub, comment a réagi votre famille à la lecture de votre livre « Beyrouth sur Seine »
Bon, je vais répondre juste pour les parents. Je crois que mon père, au début, il n'a rien dit, mais il l'a lu d'une traite. Et je pense qu'il est fier. Enfin, on l'a dit tout à l'heure. Et ça lui fait du bien d'avoir ce livre en main. Et ma mère ne l'a pas lu encore. Elle a lu quelques pages et elle m'a tout de suite dit que c'était trop dur pour elle de se rappeler de ces souvenirs-là, qu'elle m'avait déjà confié sa vie. Et que voilà, elle le lira un jour. Mais je commence à comprendre que tous ses amis lui envoient des photos de chaque page sur WhatsApp. Donc je pense, de manière un peu décousue, elle connaît à peu près tout le livre maintenant.
Parce que dans ce livre, il y a des pages très sombres sur l'histoire du Liban, sur la souffrance de l'exil, mais une souffrance toujours cachée par un humour noir, celui de votre père. Est-ce que vous avez hérité de ce sens de l'humour, un humour souvent dévastateur ? Il y a quelques pages très très drôles dans votre livre.
Ouais, ils sont toujours pleins de vie. Enfin, avec eux, quand je les interrogeais, on passait du rire aux larmes en espace de 2 minutes, et c'est ça que je voulais retranscrire dans le livre. Après, sur l'humour, oui. Alors, j'ai découvert que c'était Chris Marker qui avait dit cette fameuse phrase « L'humour est la politesse du désespoir ». Et c'est exactement ça. C'est un humour qu'on a parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, en fait. Sinon, on va pleurer tout le temps. On ne va pas pleurer tout le temps.
De vive voix touche à sa fin. Merci beaucoup, Sabile Goussoub, d'avoir été notre invité. J'invite vivement nos auditeurs à lire Beyrouth sur Seine, édité chez Stock, et Prix Goncourt des lycéens 2022. Merci à Guillaume Ploquin à la réalisation et à Cécile Lavolo à la programmation. À demain et portez-vous bien.